Bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour. Alors moi je m'appelle Pierre, je suis fondateur d'une entreprise qui s'appelle Captain Tower et je suis aussi leader d'un groupe d'évangélisation qui s'appelle Tous pour Christ. Je parlerai de ça dans la suite du message. Alors aujourd'hui j'avais à cœur de parler être la lumière du monde et briller. Parce que nous sommes tous appelés à être une lumière parmi les ténèbres. Et Jésus, avant de monter au ciel, nous a fait un commandement. Il nous a donné un ordre. Faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et n'oubliez pas, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et beaucoup de chrétiens, ils attendent d'avoir un appel d'un prophète, d'un pasteur pour évangéliser et pour annoncer son nom. Alors que cet appel est pour nous tous qui croyons en Jésus-Christ. Et Jésus nous a appelés à être un disciple véritable, qui marche à sa suite, qui ne regarde pas les choses de ce monde. Mais être un disciple, c'est quoi? Être un disciple, c'est marcher derrière Jésus, quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes, être dans la joie. Et aujourd'hui, j'espère que chacun de nous sommes dans la joie. Être un disciple, c'est porter sa croix malgré sa lourdeur, malgré sa souffrance, arrêter de se plaindre. Parce que beaucoup d'entre nous, on se plaint auprès du Seigneur quand des choses ne vont pas. Être disciple, c'est obéir au commandement de Dieu, être une lumière parmi les ténèbres, ne plus chercher notre propre intérêt, ne plus chercher la bénédiction, mais chercher à propager cet amour auprès du monde, rechercher cette lumière. Et nous sommes tous appelés à être cela. Dieu ne nous a pas appelés à être un simple croyant, qui croyons au nom de Jésus comme sauveur. Nous croyons tous au nom de Jésus comme sauveur. Mais est-ce que nous croyons au nom de Jésus comme Seigneur? Parce qu'il y a une différence entre sauveur et une différence entre Seigneur. Sauveur, il nous sauve du péché. Il nous donne le salut. Mais Seigneur, il devient notre maître. Et quand il est notre maître, nous devons obéir à ses commandements. Nous devons obéir à ses voies et nous devons le suivre. Est-ce qu'aujourd'hui nous obéissons à ses commandements? Est-ce qu'aujourd'hui nous le suivons véritablement? Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes enracinés à lui? Alors aujourd'hui, je te posais la question, te considères-tu comme un disciple ou recherches-tu ton propre intérêt au quotidien? Aujourd'hui, je vais te poser une deuxième question, est-ce que tu considères que tu portes du fruit et que ce fruit est visible? Dans Jean chapitre 15, verset 5, il est écrit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » La parole de l'Éternel dit « Si on demeure en Jésus-Christ, nous devons porter du fruit. Et si nous ne demeurons pas en Jésus-Christ, nous n'allons pas porter du fruit. » Donc notre fruit est visible par rapport à notre communion avec le Seigneur Jésus. Donc aujourd'hui, nous devons porter du fruit. Mais aujourd'hui, il y a un problème. Le monde nous distrait. L'Église est distraite par les choses belles de ce monde. L'Église est séduite. Beaucoup d'entre nous, nous sommes séduits. Beaucoup d'entre nous, nous devenons tièdes. Nous devenons froids. Dans 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 35, il est dit « Je dis cela dans votre intérêt. » Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienfaisant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Le monde, le diable, le prince de ce monde, a un stratagème, a une stratégie. La stratégie, c'est de nous distraire. La stratégie, c'est de nous éloigner du mandat que Jésus nous a fait. La stratégie, c'est de nous séduire par les choses belles qui tapent à l'œil. Et nous sommes, beaucoup d'entre nous, nous sommes séduits. Nous sommes séduits par les choses belles de ce monde, nous sommes séduits par l'argent, nous sommes séduits par la bénédiction, par les maisons, par les voitures, par les iPhones, par le dernier Samsung. Et nous devenons esclaves de ces choses. Et ces choses deviennent une idolâtrie pour nous. Alors aujourd'hui, qui est ton maître? Est-ce le Seigneur Jésus ou les choses de ce monde? Et à cause de ça, à cause de la séduction et de la distraction, beaucoup de chrétiens retournent dans le monde. Et leur condition devient pire que la précédente, dit la Bible. Beaucoup de chrétiens rétrogradent à cause de cela. Et dans notre marche avec le Seigneur Jésus, nous devons être fermes, nous devons être droits et nous devons être justes. Nous ne devons pas ouvrir des portes à ce monde, des portes à notre chair, des portes à notre diable. Parce que quand nous rentrons dans des choses charnelles, c'est très difficile d'en sortir. Alors aujourd'hui, l'Église, elle est malade, elle est fatiguée, elle ne joue pas son rôle. Parce que si elle jouait son rôle véritable, le monde ne serait pas tel qu'il est aujourd'hui. Le monde ne serait pas dégradé, le monde ne serait pas détruit. Les valeurs seront restées, les valeurs existeraient. Aujourd'hui, l'Église ne joue pas son rôle d'être un témoin d'une lumière vivante au milieu des nations. Parce que l'Église, beaucoup d'entre nous, on envie le monde. On envie le monde et parfois on en est jaloux. On envie les choses de ce monde. Et on recherche donc, on est centré sur nous-mêmes, on recherche la bénédiction, on recherche la richesse. Dans beaucoup d'églises, on recherche le mariage, on recherche tant de choses qui sont propres à nous. Mais est-ce que nous recherchons véritablement et vraiment le royaume de Dieu et sa justice ? Parce que dans Matthieu 6, 33, il est dit « Cherchez premièrement, il est écrit premièrement, le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses vous sera données par-dessus. » Aujourd'hui, si on recherche le royaume de Dieu, Dieu va s'occuper de nous. Dieu va nous bénir abondamment. Mais pourquoi sommes-nous attachés aux choses visibles alors que notre combat est invisible ? Pourquoi sommes-nous attachés aux choses qui tapent à l'œil, aux choses très belles, alors que c'est une guerre spirituelle ? Nous devons nous réveiller. Nous devons être alarmés parce que le diable, Satan, gagne du terrain et la fin du monde est proche. Nous devons arrêter de nous préoccuper du monde et de ses choses. Mais nous devons nous préoccuper du royaume de Dieu et de sa justice. Il faut que nous ayons un cœur de compassion pour les âmes perdues. Il faut que nous faisons comme Jésus qui souffrait pour le monde. Et ça, c'est notre rôle à nous. C'est pas le rôle simplement des pasteurs ou des prédicateurs, mais c'est le rôle de tout croyant. Aujourd'hui, si chacun de nous prend son rôle, aujourd'hui, si chacun de nous suit le commandement de Jésus et il est un disciple, beaucoup d'âmes seront sauvées. Et le monde ne sera plus le même. Nous devons nous réveiller, nous devons nous alarmer. Les disciples, quand ils ont rencontré Jésus, ils ont vécu 3 ans avec Jésus, ils ont connu Jésus. Jésus est monté au ciel, le Saint-Esprit est descendu, mais après ça, ils ont été des vrais disciples. Malgré que les disciples, l'apôtre Pierre par exemple, c'est celui qui a fait les plus grandes des erreurs. Et après, il a fait un prêche, plus de 3000 ou 5000 âmes ont été sauvées. Et les disciples, quand ils sont partis en mission, ils ont laissé toute leur vie. Il y en a qui ont laissé leur famille, il y en a qui ont laissé leur travail pour témoigner de Jésus. Parce que quand ils ont vécu et expérimenté Christ dans leur vie, ils se sont dit « Waouh, je ne peux pas rester tel que je suis. Parce que là, je rate quelque chose. Là, je gâche ma vie. Là, je ne peux pas rester à faire ce que je faisais avant. Je ne peux plus pêcher des poissons parce que Christ m'a appelé à être pêcheur d'hommes. » Pierre, il n'arrivait pas à pêcher des poissons. Mais quand il est rentré dans sa destinée, quand il est rentré dans la volonté de Dieu, un prêche, des milliers d'âmes qui ont été sauvées. Parce qu'il a été conduit par le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas seuls. Nous avons reçu le Consolateur, l'Esprit du Seigneur. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Il est en nous. Alors les disciples, ils servaient Jésus. En fait, beaucoup d'entre nous ont dit « La vie, elle est difficile, mes circonstances sont très difficiles, il y a ceci, il y a cela, un tel est malade, j'ai plus d'argent, je suis au chômage, je suis célibataire à 40 ans. » Est-ce que les disciples, ils disaient ça? Pourtant, les disciples, ils étaient confrontés à la mort. Les disciples, ils ont eu la pire des persécutions, mais malgré cela, ils étaient dans la joie. Étienne, il a été lapidé. Et pendant sa lapidation, quand on lit Actes des Apôtres, on n'a pas l'impression qu'il souffrait, mais il était dans la gloire de Dieu. Et quand on est dans la gloire de Dieu, Le monde ne peut pas nous arrêter. Le monde ne peut plus nous impacter. Parce que nous ne vivons plus dans les choses naturelles, mais nous vivons dans les choses spirituelles. L'apôtre Pierre, il a été cloué la tête à l'envers. C'est quelque chose d'horrible. Parce qu'il disait, moi je ne suis pas digne de mourir de la même mort de Jésus. L'apôtre Paul, sa tête a été coupée en deux. Ils ont coupé sa tête. Après tout ce qu'ils ont fait, ils ont été des martyrs. Mais ils n'ont pas eu peur de la mort. Et nous de même, nous ne devons pas avoir peur de la mort. Parce que cette vie, elle est temporaire. Les choses de ce monde sont périssables alors que nous forgeons un trésor éternel. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde d'individualisme, où nous sommes dans un monde centré sur nous-mêmes. Nous devons nous en sortir. Mais qu'est-ce qu'il en est des autres ? Jésus, quand il est venu, il venait, lui qui était Dieu, il s'est mis plus bas que terre pour servir les autres. Il a laissé de côté sa condition et sa divinité pour les autres. Lui qui était Dieu, il a lavé les pieds des disciples. Vous imaginez Jésus venir et vous dire « je te lave les pieds » Est-ce que nous faisons de même avec nos frères et sœurs? Est-ce que nous faisons de même avec les gens de ce monde? Évangéliser, annoncer le nom de Jésus, ce n'est pas forcément dire des paroles de la Bible ou dire « repentez-vous, le royaume de Dieu est proche ». Mais c'est d'abord dans les actes. Quand les gens vont voir que nous sommes différents, que nous ne recherchons pas notre intérêt, que nous sommes une lumière, ils vont se dire, il y a quelque chose qui est bizarre en lui. Et je veux aller le voir, parce que moi je veux devenir comme lui. Alors, dans Matthieu, chapitre 5, versets 13 à 16, il est dit. Vous êtes le sel de la terre. Chapitre 6, désolé alors. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient votre bonne œuvre et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alors je vais d'abord parler du deuxième verset. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on? Beaucoup d'entre nous, beaucoup de personnes dans l'Église, on a perdu notre saveur. Parce que nous ne sommes pas proches avec Dieu. Parce que nous n'avons pas une communion avec l'Éternel. Et nous avons été distraits par le monde. Nous avons été séduits par le monde. Et nous sommes devenus tièdes. Et la parole dit dans Apocalypse 3, 15, 16, « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche, dit l'Éternel. » L'Éternel, Dieu, il n'aime pas que nous soyons tièdes. Il nous appelle à être bouillants, remplis du Saint-Esprit, manifester les dons d'esprit, manifester l'amour dans ce monde. Alors pourquoi sommes-nous ainsi? Pourquoi aujourd'hui ne nous payons pas le prix véritable? Pourquoi aujourd'hui nous sommes soumis aux choses de ce monde? Pourquoi aujourd'hui sommes-nous égoïstes, individualistes? Christ nous appelle. Nous avons tous reçu un trésor d'une valeur inestimable, un trésor qui n'a pas de prix. Et ce trésor, qu'est-ce que nous en faisons? Nous le gardons pour nous-mêmes. Alors que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Il attend avec un ardent désir ta révélation parce que tu es fils de Dieu. Le monde attend que tu te lèves pour croire au Seigneur Jésus. Alors aujourd'hui, arrêtons notre égoïsme. Aujourd'hui, sortons et manifestons la gloire de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, beaucoup de chrétiens, on a peur. On a peur des circonstances, comme ce qui s'est passé à Opéra. On a peur des problèmes, on a peur de la maladie, on a même peur d'aller évangéliser une certaine personne. On a peur. Alors que Dieu nous a donné l'autorité, alors que Jésus nous a donné son esprit de sainteté. Je ne sais pas si on réalise, on a le même Saint-Esprit que Jésus. Quand on commence à se dire ça, j'ai le même Saint-Esprit que Jésus. J'aimerais bien qu'on répète, j'ai le même Saint-Esprit que Jésus. Et Jésus a dit qu'il y en a d'entre vous qui feront des choses plus grandes que moi. On a la capacité illimitée en nous, mais on la garde enfuie en nous et on l'étouffe. Et ce Saint-Esprit veut se manifester, ce Saint-Esprit veut se déployer. Ce Saint-Esprit veut être propagé et contaminer le monde entier. De Timothée 1,7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Dans Romains 8,15 aussi. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Alors aujourd'hui, est-ce que nous crions « Abba Père » ? Dieu nous a donné l'autorité à chasser les démons. La parole de Dieu dit « Ceux qui croiront en mon nom, ils chasseront les démons, ils guériront les malades. » Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous voyons ces fruits opérés dans l'Église ? Dieu nous a donné l'autorité qu'aucune maladie nous résiste, parce qu'avec le Saint-Esprit, nous avons le miraculeux en nous. Il circule dans notre corps, dans nos veines, pour chacun de nous. Dieu nous a donné l'autorité à ne plus être soumis aux principautés et aux chefs de ce monde, et à ne plus subir cette vie. Dieu nous a donné tellement de choses. Aujourd'hui, quand on évangélise, quand les gens apprennent qu'on est chrétien, ils se disent, mais chrétien quoi ? Catholique, protestant, chrétien quoi ? Évangélique. Le plus important, ce n'est pas la dénomination. C'est le royaume de Dieu. Nous œuvrons tous pour un même but, pour le royaume de Dieu et sa justice. Nous œuvrons tous pour un même but, pour le nom du Seigneur Jésus. Mais aujourd'hui, beaucoup d'entre nous sommes divisés. Nous sommes divisés à cause de doctrines. Pendant ce temps-là, des gens, des âmes se meurent. Est-ce que le plus important, c'est d'avoir raison sur la compréhension de la Bible, ou est-ce que le plus important, c'est que des âmes passent l'éternité chez Jésus ? Nous devons mettre notre ego de côté. Chacun de nous a un ego. Qu'on a raison ou qu'on ait tort, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de porter du fruit et arracher des âmes, des ténèbres à la vie. C'est ça le plus important. Et le diable, il nous a divisés, non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Jésus, il a été livré par Judas Iscariote, qui était à l'intérieur, qui était l'un des 12. Parce que de l'extérieur, on va s'y attendre, mais de l'intérieur, ça fait mal. Alors aujourd'hui, soyons unis d'un commun accord et d'un même esprit, de l'esprit du Seigneur Jésus. Si nous sommes unis du même esprit, la volonté de Dieu va s'accomplir et la gloire de l'Éternel sera sur cette ville de Paris et de France. Alors je voulais vous lire dans Genèse, chapitre 11, versets 6 à 8, par rapport à la tour de Babel, vous devez sans doute connaître. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêchera de faire ce qu'ils auront projeté. » C'est Dieu qui dit ça à des hommes qui font du mal. Rien ne les empêchera de faire ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus le langage les uns des autres. Et l'Éternel les a dispersés. De là sur la ville il cessèrent de bâtir la ville. Là, il y a un principe divin qui dit « Lorsque deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et quand nous sommes unis, plus rien ne peut nous arrêter. Quand nous nous unissons pour un même projet, pour un même but, nous avons le succès par notre unité. » Et là, dans la tour de Babel, ils étaient unis. Ils étaient déterminés à construire cette tour qui allait jusqu'au ciel. Mais Dieu les a dispersés. Et aujourd'hui, de même, le diable nous disperse afin que cette œuvre, ce ministère, le ministère de Jésus, soit détruit, soit anéanti. On est dispersés. Alors dans Ésaïe, chapitre 60, versets 1 à 2. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Disons gloire à Dieu pour cette parole magnifique. Et cette parole s'applique à chacun de nous. Lève-toi aujourd'hui d'où tu es. Levons-nous de notre tiédeur. Levons-nous, quels que soient nos problèmes, quelles que soient nos fatigues. Et sortons dehors annoncer le nom de Jésus. Amen. Être chrétien, être disciple, c'est ne pas simplement venir à l'église, s'asseoir, écouter le pasteur et repartir pendant la semaine. L'église a un rôle fondamental. C'est une plateforme pour nous aider à être restaurés, être fortifiés, édifié, être encouragé, être rempli du Saint-Esprit, pour que pendant la semaine nous sortons dehors. Alors pourquoi aujourd'hui nous sommes centrés sur l'Église et pas de l'extérieur. Le ministère de Jésus, quand on lit la Bible, son ministère a été d'abord dehors. Il allait dans les synagogues, mais c'est dehors que les gens acceptaient son nom. C'est dehors qu'il faisait des démonstrations de puissance. C'est dehors. Donc aujourd'hui, arrêtons d'avoir peur dehors. Même si nous sommes des brebis au milieu de loups, nous avons avec nous l'Éternel des armées, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et qui peut nous arrêter? Personne. Mais nous devons obéir à sa parole. Alors aujourd'hui, notre lumière, ne nous la gardons pas pour nous-mêmes, mais exposons cette lumière au monde, afin que le monde reconnaisse la révélation des fils de Dieu. Aujourd'hui dans le monde, beaucoup recherchent l'espoir. Aujourd'hui dans le monde, beaucoup recherchent l'espérance, mais ils ne le trouvent pas. Donc beaucoup se réfugient dans des addictions, la drogue, l'alcool, le sexe, pour donner un sens à leur vie. Mais ils n'en sont pas convaincus. Et donc cette espérance que nous avons, le monde en a besoin. Et le monde attend une seule chose, c'est que tu ailles et que tu lui parles. Quelle que soit ta capacité, Moïse, il ne savait pas parler, il bégayait. Malgré cela, Dieu l'a choisi. Dieu l'a choisi pour tenir tête à la première puissance mondiale, je ne sais pas si vous réalisez, l'Égypte, pour tenir tête à Pharaon. Dieu ne regarde pas à ta capacité, mais Dieu regarde à ton cœur. Ça, c'est important. Même si tu n'es pas capable, le Saint-Esprit te rend capable de toute chose. Même si tu n'as jamais fait, tu ne sais pas faire, le Saint-Esprit te rend capable de toute chose. C'est important à savoir. Donc, moi je vais vous parler un peu du groupe. Après, on aura deux petits témoignages. Et je reviendrai pour conclure à la fin. Alors nous sommes un groupe d'évangélisation qui s'appelle Tous pour Christ. Nous sommes d'aucune dénomination, d'aucune église locale, et notre but c'est d'œuvrer pour le royaume de Dieu, d'œuvrer pour la justice de Dieu, être au service du corps du Christ, être au service des églises locales et ramener beaucoup d'âmes à ces églises. Ça c'est notre but. Et nous évangélisons tous les samedis dans la rue, dans des lieux différents de Paris, pour annoncer le nom de Jésus. Donc moi je vais laisser deux de mes collègues parler, je reviendrai à la fin.
Soyez tous bénis, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc moi je m'appelle Ishak Aboubakar. Donc je suis de bon, pakistanais et indien. Ma mère est indienne, mon père est pakistanais. Ils sont musulmans. On est assez nombreux dans la famille. Il y a 10 enfants. Donc voilà. Donc moi, comment mon témoignage, je vais le raconter un petit peu assez rapidement. Donc c'est il y a 20 ans. Je suis parti en vacances à côté de Dijon pour prendre 2 semaines de vacances avec mon petit frère. Et on est parti dans une maison d'hôtes. C'était une famille ivoirienne. Et donc, je suis resté pour 2 semaines. Et donc, au bout de la deuxième journée ou troisième journée, j'étais dans ma chambre avec mon petit frère. Et puis, il y a un petit enfant qui s'appelle Angéani qui est entré dans notre chambre, qui s'est mis à prier en langue. Donc, nous, on s'est mis à rigoler parce qu'on ne savait pas ce qu'il disait. Et donc, ensuite, il a prié avec l'intelligence. On l'écoutait prier le Seigneur Jésus. Il était très courageux, très audacieux. Entré dans la chambre et s'est mis à genoux. Il s'est concentré sur le Seigneur. Il n'a pas pris compte de nos rires, de nos moqueries. Et ça, c'est très très bien. Donc ensuite, on a parlé de Jésus cette soirée-là. Moi, j'avais 17 ans, il en avait 11 à peu près. Et donc, on a parlé de Jésus, j'ai accepté le Seigneur ce soir même. Et voilà. Donc après les moqueries, vient la repentance. Hein. Voilà. Et donc, c'est comme ça que j'ai accepté Jésus. Un an plus tard, je suis revenu chez lui. Ses parents ont donné leur vie à Jésus parce que ses parents n'étaient pas croyants. Donc, sa mère s'est convertie, son père aussi. Et donc, la deuxième année, presque tous les soirs, on se rassemblait ensemble, on lisait la parole de Dieu ensemble, comme disait la sœur tout à l'heure. On ouvrait la Bible au hasard, et chacun ouvrait sa Bible au hasard. Et c'est comme ça qu'on donnait l'interprétation, et qu'on sentait que le Seigneur nous parlait comme ça, quoi. Donc après, sa maman m'a donné une adresse à l'église à Paris, et j'ai commencé à fréquenter l'église à Paris. Mais là, il a fallu une décision de ma part personnelle, parce qu'une fois qu'on quitte le lieu du confort où on a reçu ce qu'on a reçu du Seigneur Jésus, ensuite on est tout seul. Moi, j'étais tout seul dans ma famille musulmane, tout seul, donc avec ma petite adresse de l'église. Mais par la grâce de Dieu, j'ai pris la décision d'y aller. Donc j'y suis allé et j'ai commencé à fréquenter l'église tout seul, au début avec mon petit frère, puis ensuite mon petit frère, il s'est éloigné du Seigneur. Bon, voilà. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à grandir dans la foi. Ça a été graduel, mais bon, voilà. Donc aujourd'hui, je suis chrétien par la grâce de Dieu. J'ai lu le Coran aussi, parce qu'avant, je le lisais en arabe, mais je ne comprenais pas. Mon père envoyait une sorte d'imam à la maison pour nous faire lire le Coran en arabe, je ne comprenais rien. Mais bon, là, j'ai lu en français, j'ai bien compris ce que disait le Coran. J'ai lu presque 3 fois, et donc j'ai pu vraiment voir la différence entre la Bible, ce que dit la Bible, et ce que dit le Coran. Et je peux vous assurer que quand vous lisez encore une fois, ça fait mal de voir que ce livre-là dit le contraire de ce que dit la Bible, quoi, complètement. Donc voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Donc je voudrais juste vous parler un tout petit peu d'évangélisation. Donc maintenant, moi, je suis avec Tous pour Christ. Depuis, j'ai commencé vraiment à me fidéliser depuis septembre dernier, à venir tous les samedis pratiquement avec le serviteur Pierre et d'autres frères en Christ. Je suis très content d'aller dans le terrain. Parce que c'est vrai que j'allais souvent à l'église. J'étais celui qui réchauffait les bancs de l'église tous les dimanches. Et à un moment, c'était vraiment fatigant et je suis parti à la librairie chrétienne et là j'ai rencontré Pierre qui était devant les rayons des tracts d'évangélisation. On s'est connu comme ça à CLC, voilà. Et puis vraiment je suis très content d'aller dans le terrain et de m'habituer à aller dans le terrain, parce qu'on est des chrétiens, on ne doit pas être des chrétiens d'église mais des chrétiens de terrain. On doit vraiment penser au terrain. Au terrain, c'est là où Jésus il pense énormément. Nous on reçoit la parole, on la reçoit, d'accord, on est bien nourri, on est bien rassasié, on est bien engraissé. Bon, même si, voilà. Sinon, ceux qui ont vraiment besoin de la parole de Dieu, ceux qui ont vraiment besoin de Jésus, ceux qui ont vraiment besoin de recevoir des paroles d'édification, d'encouragement, d'exhortation, mais c'est déjà les brebis perdus. Jésus est venu pour les brebis perdus de la maison d'Israël, mais Dieu nous envoie pour les brebis perdus de Paris, de France. Donc vraiment, faut pas qu'on oublie ça, faut pas qu'on oublie notre mission d'aller dans la rue, aller dans les rues, arrêter de rester tout le temps à l'église. C'est très très bien d'aller. Moi, à un moment, j'y allais plus à l'église pendant 2-3 mois, et le Seigneur m'a vraiment averti par des songes que je devais vraiment aller à l'église. Et c'est vrai qu'en repartant à l'église, effectivement, comme disait Pierre, c'est là où on est fortifié, édifié. Même si ça fait 20 ans, on a toujours besoin d'aller à l'église, c'est très important. D'être dans la communion fraternelle, c'est très très important. Donc voilà. Donc je vous encourage vraiment à vous habituer petit à petit, à prendre l'habitude vraiment, d'évangéliser, de donner des tracts, d'aller soit dans les boîtes aux lettres, à votre manière, laissez-vous guider par le Saint-Esprit, priez aussi, et allez dans la rue, allez vraiment dehors, par la grâce de Dieu. Que le Saint-Esprit vous pousse au nom de Jésus. Donc quelques petits points pour l'évangélisation, c'est que pour évangéliser, la première chose c'est déjà nous-mêmes, quand Jésus dit Avant d'ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère, ôte la poutre qui est dans ton œil. Donc voilà, c'est bien beau de faire la morale aux gens, de dire aux gens ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, etc. Mais Jésus a dit, Paul, c'est l'apôtre Paul qui disait, toi qui enseignes les autres, tu t'enseignes pas toi-même. Donc on doit s'enseigner nous-mêmes, on doit enlever la poutre qui est devant nos yeux. Ça peut être la rancune, ça peut être la colère, ça peut être plein de péchés. Il faut vraiment s'examiner et ensuite, voilà, vivre une vie de repentance. La première chose que Jésus a dit quand il était sur terre, c'est « repentez-vous ». Donc nous, on doit d'abord nous-mêmes être un modèle, vivre une vraie vie de repentance, sincère, s'examiner tous les jours, afin que quand on est dans le terrain, on peut être, entre guillemets, oui, digne de pouvoir annoncer la parole. Jésus a dit que celui qui observe la parole et qui enseigne à l'observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume de Dieu. Donc il faut l'observer soi-même et ensuite l'enseigner aussi. Mais après, ce que Dieu veut de nous, c'est qu'on puisse vivre une vie de repentance tous les jours, mais c'est pas, le péché ne doit pas nous décourager. C'est pas parce qu'on tombe dans le péché que du coup, je vais pas aller évangéliser parce que j'ai péché, parce que si, parce que ça. Ne vous découragez pas, ne vous laissez pas abattre par un esprit de découragement ou de culpabilité. Soyez sincères dans votre vie chrétienne, priez sincèrement le Seigneur et battez-vous pour vivre, pour être vraiment irréprochable devant le Seigneur, même si c'est pas quelque chose de facile. C'est un combat de tous les jours. Et voilà. Et ensuite, on va dans le terrain et on peut se permettre d'enseigner, de prendre le micro, de prêcher, etc. Voilà. Vivre une vie de sanctification. Deuxième chose, être saint. Chercher la sanctification, l'adoration. Moi, j'ai commencé ma vie chrétienne à louer le Seigneur, à adorer le Seigneur dans ma chambre. Je prenais des CD qu'il y avait dans l'église et puis on louait ces CD-là. Et j'écoutais beaucoup des chants d'adoration. J'entrais beaucoup dans l'intimité avec le Père. J'entrais beaucoup dans sa présence. Ça me faisait beaucoup de bien. Donc vivre une vie de sanctification, haïr le péché, c'est la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Donc voilà, vivre une vie de sanctification, sans la paix et la sanctification, on ne verra pas le Seigneur, dit la parole de Dieu. Donc on doit rechercher la paix entre nous, le pardon mutuel et la sanctification. Amen. Il y a une autre chose aussi, le troisième point, c'est le combat spirituel contre les liens générationnels, par exemple, parce que moi, tous mes ancêtres étaient musulmans, donc ils ont posé des autels, ils ont fait des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et il faut vraiment, il y a ça, mais il y a d'autres choses. Il faut vraiment chasser tout démon dans notre vie, toute faiblesse, toute addiction. Il faut vraiment combattre ces choses-là. Alors, entrer dans le combat spirituel, ça fait peur aux démons. Ça, c'est quelque chose que Satan n'aime pas. Et aller évangéliser, si on évangélise mais qu'on n'est pas délivré, Satan, quelque part, voilà. Mais si vraiment on entre dans le combat spirituel, on lie les démons, on chasse les démons, on brise tous les liens héréditaires, etc., on est vraiment concentré dans ces choses et on est constant, persévérant. Parce que l'apôtre, il y a un apôtre qui disait que la persévérance produit la victoire dans l'épreuve. La persévérance, et celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. On doit persévérer dans la repentance, dans la sanctification, dans l'évangélisation, mais dans le combat spirituel aussi. Parce que les démons, ils sont persévérants. Les démons sont persévérants aussi, ils travaillent. Et nous, on doit travailler aussi dans le combat spirituel. Amen. Et pour être capable de lier des démons, il faut d'abord vivre une vie sainte. Parce que si on vit dans le péché et qu'on veut lier un démon, vous savez ce qui s'est passé dans le livre des Actes. Voilà. Et donc, dernier point, c'était l'amour, manifester l'amour. Alors, dehors, quand vous allez entrer dans le terrain, dans l'évangélisation, il y aura des gens qui vont vous insulter, qui vont se moquer de vous, qui vont rien que des grimaces, ils ne vont même pas parler, mais rien que leurs grimaces, ça peut irriter. Parce que quand ils font ça de la tête, par exemple, parce qu'on parle de Jésus, comme si c'était grave de parler de Jésus, ça peut énerver. Donc, manifestons l'amour de Dieu. Ça doit être le pilier de notre vie, 1 Corinthiens 13. On pourra parler comme des anges, on pourra avoir toute la connaissance au monde, toute la science du monde, mais si on n'a pas l'amour, on n'est rien. Donc, quand on va dans le terrain, on doit être sûr d'être plein d'amour, on doit être sûr d'être patient, sûr de pardonner, sûr d'écouter, de pouvoir être capable de toujours écouter les gens, de ne pas couper la parole, etc., sûr de ne pas se mettre en colère, etc. Voilà. Donc manifestons l'amour de Dieu. Amen. Voilà. Donc voilà ce que je disais. Alors moi il y avait deux passages dans la Bible que je voudrais. Alors 1 Pierre 3:15. Je vous remercie. 1 Pierre 3 verset 15 qui dit: étant toujours prêt à vous défendre. Soyez toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect. Donc la douceur et le respect, très important. On se défend, on défend notre Seigneur Jésus, on défend notre foi en Christ, on défend notre espérance, mais avec douceur. C'est ce que dit la Bible, l'apôtre Pierre, avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience. Amen. Donc voilà, la douceur, le respect, et le dernier passage, c'est Jacques 1,19. Jacques 1,19, qui dit « Ainsi, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter. » Prompt, on doit être prompt à écouter les gens. Lent à parler. On doit être lent, on ne doit pas se précipiter, vite dire ce qu'on a à cœur de dire, mais on doit être lent à parler. Et on doit être lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc ça, je pense que c'est deux passages assez importants pour l'évangélisation, en tout cas pour ma part. Voilà, parce que les gens ont beaucoup de choses à dire. Moi, que ce soit les musulmans ou d'autres personnes, ils ont beaucoup de choses à dire dans le cœur. Bah, on les écoute, on est patient, on les laisse parler, on ne coupe pas la parole. Et quand ils ont terminé, bah, on intervient, mais on essaie vraiment que ça soit ordonné, que ça soit respectueux l'un à l'autre, parce que des fois, ça peut partir très vite. Moi, ça m'est déjà arrivé de parler avec des gens, et puis on se coupe la parole, et puis, ou alors moi, j'écoute la personne, respectueusement, et elle, quand elle doit m'écouter, bah, elle ne fait que de me couper la parole. Et donc, moi, ça m'était aussi en colère, ça m'énervait, ça m'est déjà arrivé dans l'évangélisation de me mettre en colère, et c'est pas bon du tout. Mais c'est pas parce que j'échoue, que je tombe, que je vais arrêter d'évangéliser. Il faut que je me relève et que je reparte avec la douceur et le respect, je repars, et je vais me battre pour être voilà, ce que Dieu veut que je sois dans l'évangélisation, et c'est avec l'expérience qu'on arrive à devenir meilleur. Mais si on ne fait pas, bah, comment on pourra devenir meilleur? Voilà. Voilà, donc, ce que l'on peut entendre, non? Alors, ce que l'on peut entendre chez les gens, en général, depuis que je suis là en septembre, dans la rue, on entend souvent des gens dire, alors, il y en a qui disent, bon, moi, je ne fais rien de mal. Après tout, je fais rien de mal, je suis quelqu'un d'assez bien, je fais du bien, je donne de l'argent aux pauvres, je suis très gentil, etc. Non, je fais rien de mal. Et donc la personne se justifie en pensant que... Bon, il y a un verset qui dit que... Voilà. Bon, ça, c'est un autre... Ça n'a rien à voir, mais bon. Voilà, je fais rien de mal. Donc là-dessus, il faut avoir de quoi... Avoir du répondant sur ces genres d'arguments. Leur montrer qu'on est tous des pécheurs. Leur montrer qu'on a tous fait des choses mauvaises dans notre vie, un jour dans notre vie. On ne peut pas se permettre de dire qu'on est irréprochable. Donc là, c'est à nous de travailler sur les arguments, ce genre d'arguments-là. D'accord ? Donc on a tous menti un jour, on a tous volé un jour, on a tous... Mais le plus grand mal, surtout, c'est de tourner le dos à Dieu, pour les incroyants, par exemple. Eux, ils ont tourné... C'est comme un enfant qui tourne son dos au père. C'est quelque chose de très grave. L'enfant va se mettre à dire, mais moi, je fais rien de mal. Bah si, tu es en train de renier ton père. Tu te fiches de ton père, et tu n'écoutes pas ton père, et tu dis, je fais rien de mal. Bah avec l'homme, avec ce genre d'argument, on peut se dire ça aussi. Je fais rien de mal, mais tu pries pas, tu invoques pas le Seigneur, tu cherches pas la face de Dieu. Voilà. Alors après, ça dépend, il y en a qui croient pas du tout en Dieu, donc voilà, mais chercher tel. Voilà. D'autres personnes qui disent que je ne crois pas en Dieu, donc là, moi, l'argument que je peux donner, c'est ce qu'on peut voir, la diversité des choses qu'il y a dans le monde. La Bible parle de la sagesse infiniment variée de Dieu. La sagesse infiniment variée de Dieu, Dieu est un. Est une personne remplie de créativité, et la nature nous le montre bien. Partout où nous allons, il y a de la créativité, il y a de la diversité dans toutes choses. Et rien que la nature nous montre que Dieu est vivant. Dans les races, les langues, diversité de peuples, diversité d'écritures, diversité d'animaux, des fruits, des légumes, de plein de choses, des épices, même quand on va dans, il y a les super beaux paysages, on part à la montagne, on part à la mer, c'est super beau, les gens ils prennent des photos, ils n'hésitent pas à prendre des photos, mais toutes ces belles choses viennent du Seigneur. Voilà. Alors, on est d'accord pour photographier la création, mais la créature, on ne cherche pas à en savoir plus. D'accord. C'est ça aussi qu'il faut dire aux athées qui ne croient pas en Dieu, c'est leur parler de la diversité, de la créativité, de toutes ces choses, je pense. Il y en a d'autres qui disent que la foi, c'est personnel. Ne parlez pas de votre foi, c'est quelque chose de personnel. Vous gardez ça pour vous. C'est pas ce que Jésus nous a dit. Jésus a dit d'aller, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il nous a ordonné d'aller, de prêcher l'Évangile. Les apôtres allaient de village en village. Jésus allait de village en village. Ils étaient tous actifs, ils se promenaient pour prêcher Christ, pour prêcher la repentance. Et les gens disent la foi, c'est personnel. Mais si la foi, c'est personnel et qu'on la partage à personne, comment les gens pourront être sauvés ? Donc ça aussi, il faut avoir du répondant quand les gens vous disent que la foi, c'est personnel. C'est faux. La foi, il faut en parler à tout le monde. Le salut, c'est personnel, d'accord ? Mais la foi, il faut la propager, il faut la partager. Amen. Alors ensuite, il y en a d'autres qui disent « Vous n'avez pas le droit de faire du prosélytisme. C'est inadmissible. » Donc moi, hier soir, j'ai lu l'article 18 et 19 des droits de l'homme. Alors, est-ce que je l'ai à l'instant ? Alors, juste l'article 18. Alors, toute personne a. Alors, Déclaration universelle des droits de l'homme. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Le droit implique la liberté de changer de religion, de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion. La liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public, c'est ce que dit les droits de l'homme, en public, qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. Donc c'est les droits de l'homme eux-mêmes nous confirment qu'on a le droit d'aller en public, dehors. Voilà. Donc ça c'est un droit, c'est la Constitution. Là, les personnes qui disent ça, vous leur citez ça, c'est bon. Les droits de l'homme. Donc le dernier article, c'est l'article 19. L'article 19 dit ceci. Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher de recevoir et de répandre. Et de répandre sans considération de frontières les informations et les idées par quelques moyens d'expression que ce soit. Quelques moyens d'expression que ce soit. C'est ce que disent les droits de l'homme. Voilà. C'est bien d'avoir la connaissance de la loi humaine, comme ça, ça fait taire quelques-uns. Voilà. Et Jésus a dit que je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Il faut qu'on en arrive là. Mais pour en arriver là, il faut aussi chercher, comme Luc qui a fait des recherches exactes sur toutes ces choses avant de présenter son évangile au monde. Il a fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, en suivant les témoins oculaires. Amen. Alors, il y en a d'autres qui disent... Alors, d'ailleurs, ça n'a peut-être un peu rien à voir, je ne sais pas, mais en tout cas, ceux qui font la politique lorsqu'il y a les élections, je peux vous assurer qu'ils sont très tôt le matin à donner des tracts pour ceux qui sont de droite ou ceux qui sont de gauche. Moi, je ne m'y connais pas trop en politique, etc. Mais ils sont motivés. Et quand on reçoit dans notre boîte aux lettres, ils mettent tous les arguments en avant pour montrer qu'il faut voter cette personne. Et ils y vont. Donc voilà, ils font de l'évangélisation à leur manière. Mais on est droit, on a le droit, ils ne forcent personne. Et de même, nous, on ne force personne. Donc si eux, ils se permettent d'évangéliser leur homme politique, leur femme politique, pour qu'on puisse voter pour eux, de même, nous, on vote pour Jésus. Nous, on choisit Jésus, on vous présente Jésus. Allez, prenez Jésus. Voilà. Et on ne fait rien de mal et on ne force personne. Voilà. Bon, après, c'est Alors, si vous rencontrez des musulmans dans la rue, dans l'évangélisation, moi, ce qui me fatigue un peu, mais bon, on est obligé de toujours entendre la même chose, c'est... On entend souvent les mêmes choses, c'est par exemple que la Bible est falsifiée. Donc, tu peux me citer ce que tu veux dans la Bible. De toutes les manières, les hommes ont changé ça, ils ont falsifié ça. Ça, c'est ce que disent les musulmans. Donc, moi, j'ai lu dans le Coran que Allah, c'est un excellent gardien. Un excellent gardien. Et il assure la sauvegarde de toute chose. À ce moment-là, si c'est un excellent gardien et qu'il assure la sauvegarde de toute chose... Dans ce cas-là, il doit sauvegarder la Torah, il doit sauvegarder les psaumes, l'évangile, l'Apocalypse, les épîtres de Paul, il doit tout sauvegarder parce que c'est un excellent gardien. Voilà, on cite ça. Il faut lire le Coran, il faut avoir la connaissance du Coran pour aller voir les musulmans. Si vous voulez voir les musulmans sans avoir la connaissance du Coran, c'est possible aussi de les convertir. Ne pensez pas que ce n'est pas impossible parce que la parole de Dieu, là, elle est efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. C'est une parole très puissante. Vous citez un seul verset, ça peut toucher le musulman le plus endurci. Il faut toujours faire les choses par la foi. Par la foi et l'amour. Et par la prière. Amen. D'autres choses que disent les musulmans, Jésus n'est qu'un prophète. Et nous l'aimons. Hein. Nous le respectons. Alors, Jésus a dit que si vous m'aimez, gardez ma parole. Si vous m'aimez, vous gardez ma parole. Les musulmans ne gardent pas la parole de Jésus dans la Bible. Mais ils gardent les paroles du Christ qui sont dans le Coran. Les paroles du Christ dans le Coran, il y en a certaines qui sont falsifiées. Jésus dit dans le Coran que je vais vous envoyer Mohamed. C'est pas écrit dans les évangiles. Donc voilà. Mais voilà, donc les musulmans, s'ils disent qu'ils aiment Jésus, ils doivent garder les paroles du Christ. Pas seulement dans le Coran, parce que dans le Coran, c'est des miettes. Hein. Les paroles du Christ, il n'y en a pas beaucoup. Je peux vous assurer qu'il n'y a pas grand-chose. Mais les évangiles, c'est rempli tout le Nouveau Testament, et même l'Ancien Testament, on nous parle du Christ. Jésus a dit aux Juifs, ce sont les Écritures qui parlent de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Les Écritures, l'Ancien Testament parle de Jésus, le Nouveau Testament parle de Jésus. Donc les musulmans doivent garder les paroles du Christ pour dire que oui, j'aime Jésus. Mais on ne peut pas dire j'aime Jésus, je le connais, je le respecte, et on se fiche de ses paroles. Ça n'a pas de sens. Et il y a une autre parole qui dit « Jésus n'est pas le Fils de Dieu, Jésus n'est pas Dieu ». Bon, voilà. Tout ça, ça demande des recherches pour pouvoir bien argumenter, bien donner des réponses convaincantes aux musulmans, aux païens, aux incroyants, peu importe, aux témoins de Jéhovah, peu importe qui vous rencontrez, préparez-vous, faites des recherches comme Luc pour trouver des bons arguments. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.
Bonjour à tous. Je suis très content d'être avec vous et c'est une grande grâce. Votre manière de louer le Seigneur est magnifique et je vois le Seigneur en vous. Je
ne
veux pas être long. 5 minutes. Je vais en parler de Tous pour Christ. Et comment, en essayant de changer les gens, nous avons été changés. Le pasteur me demandait à l'église, ça fait combien de temps que je connais Christ ? Moi, je suis différent d'Abou Bakr. Je suis né à l'église. J'ai vécu à l'église. Mais je ne connaissais pas Jésus. Je vivais dans la drogue, dans le sexe. Dans le péché. Et fois après fois, chose après chose, le Seigneur travaille en moi. Jusqu'à ce que j'ai commencé à servir Dieu. Par le service et la prière persévérante, Jésus a commencé à travailler avec moi personnellement. Et j'ai commencé à arrêter beaucoup de choses mauvaises dans ma vie. Et le Seigneur Jésus montrait ce qui était mauvais en moi. Il rendait visible des choses que je ne connaissais pas de moi-même. Et la vie véritable avec Christ, c'est de le servir et de porter du fruit. La Bible dit qu'on ramène du fruit, le Père est heureux. La dernière parole de Jésus, c'est « Allez et de faites toutes les nations les disciples ». Et je voyais à Tous pour Christ des personnes de toutes nationalités, roumains, arabes, égyptiens, français, anglais, américains, etc., etc., qui étaient unis pour le nom de Jésus. Et ils n'avaient aucun but à part le but de Jésus et la gloire de Jésus. Nous ne voulons rien en retour, selon la gloire de Jésus, nous voulons. Et comment je les ai vus quand ils étaient assis dans la rue avec des malades sans avoir peur d'être contaminés mais qui priaient pour eux. Quand j'ai commencé à servir Jésus, je ne connaissais pas trop la Bible. Et j'ai dit au Seigneur, comment je peux te servir si je ne connais rien ? Et quand j'ai commencé à servir Dieu dans la rue, c'était la plus grande école pour moi. De toutes les questions qu'on me demandait dans la rue. Et toute question, je recherchais sa réponse par la Bible. nous rencontrons des personnes qui ont des pensées différentes, avec des nationalités différentes. Il y avait des questions, c'était très difficile. Par la prière, par la communion fraternelle, le fait d'être ensemble, on réussissait à répondre à des questions ensemble difficiles. Et la meilleure chose qu'on sert le Seigneur, c'est de voir le fruit. Et on a vu des gens qu'on a évangélisés dans la rue qui servent le Seigneur avec nous maintenant. Des personnes qui laissent leur travail et qui descendent dans la rue. Et chacun peut servir Dieu de la manière dont il voit qu'elle est juste. Servir Dieu, c'est vraiment incroyable et c'est une aventure quoi. Et je vous encourage que chacun de nous dise: Seigneur, comment je peux te servir? Dans Matthieu 24, avec les pièces, je crois, Dieu a donné à chacun des dons, une manière, talent. Et Dieu nous demande d'utiliser ses talents d'une manière bonne. Et si nous n'utilisons pas ses talents, Dieu va les reprendre. Et nous aurons une foi qui ne porte pas de fruits. Moi, je voulais finir en parlant très rapidement de moi, parce que chacun a parlé de lui. Moi, je suis croyant depuis assez longtemps. J'allais à une église, mais je ne servais pas vraiment, pas forcément et vraiment le Seigneur. J'étais proche de Dieu, mais il a suffi dans ma vie des choix mauvais ou quelque chose de mauvais qui a été fait, et je me suis rendu compte que de moi, rien ne sort de bon. De nous, rien ne sort de bon, parce que nous sommes charnels, nous sommes faits de la chair. Même si nous avons la connaissance de Christ, nous sommes faits de chair. Et j'ai commencé à partir de ce temps et cette période à rechercher le Seigneur d'une manière ardente. Et j'ai commencé à être bouillant par le feu du Saint-Esprit. Et c'est à cette période que j'ai commencé et que j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Et c'est à cette période que je demandais à Dieu: éloigne de moi ma coupe, comme Jésus a dit dans le jardin des Oliviers. Éloigne de moi ma volonté, parce qu'elle n'est pas bonne, mais je veux que ta volonté soit faite dans ma vie. Je ne veux plus ce que je veux, mais je veux ce que toi tu veux. Et depuis ce moment, la Bible dit dans Jérémie: avant que moi, et je te révélerai les choses cachées. Et depuis ce temps, Dieu a commencé à révéler qui j'étais, quelle est mon identité en Christ. Parce que je ne savais pas pourquoi j'ai été créé sur la terre et quel est mon but sur la terre. On a tous une ADN, on a tous un but. Nous avons tous un appel, chacun de nous. Nous ne sommes pas venus ici sur terre par hasard, mais nous sommes venus pour écrire une histoire. Chacun de nous. Et Dieu, il a fait en sorte que chacun de nous soyons des héros, des vaillants héros. Et il a mis sur ces héros une responsabilité. Chacun de nous, nous avons une responsabilité dans le corps du Christ. Mais quelle est la responsabilité? Mais pour la connaître, pour la savoir, pour être conduit par elle, nous devons rechercher le royaume de Dieu. Nous devons rechercher sa volonté. Nous devons vraiment vouloir l'éternel. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous étions bouillants et nous sommes redescendus. Nous avons rétrogradé. Nous sommes devenus tièdes. Et nous ne sommes pas forcément dans l'appel du Seigneur. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, dans l'Église, nous ne faisons pas la volonté du Père. Nous sommes sauvés, mais après, plus rien. nous avons une vie de routine et nous vivons pas cette vie d'aventure avec Jésus telle que les apôtres ont vécu dans Actes des Apôtres. On peut voir que dans Actes des Apôtres, c'était une aventure encore plus grande que Indiana Jones. Et il nous invite tous. Donc aujourd'hui, j'aimerais bien faire un appel à quiconque. Soit tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu veux la donner aujourd'hui, tu veux lui demander pardon parce que tu as fait du mal, tu l'as causé du tort. Soit parce qu'aujourd'hui, tu te sens tiède, tu te sens froid. Soit parce qu'aujourd'hui, tu crois que tu vois que tu ne portes pas de fruits et tu veux prendre cet engagement, pas avec moi, avec le Seigneur, de le servir, de rechercher sa volonté et d'être dans ce chemin à laquelle il nous a appelés. Donc j'appelle toute personne qui veut qu'on fasse une prière ensemble, qui se lève de d'où il est. Et on va prier ensemble le Seigneur, que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur nous rend plus forts, que le Seigneur nous rend zélés, que le Seigneur nous rend bouillants. Même moi, de moi-même, je dis, moi je ne suis pas assez bouillant. Je ne suis pas assez chaud, je suis tiède tel que je suis, mais j'ai besoin du feu du Saint-Esprit qui vienne en moi, qui vienne sur moi et qui me conduise. Pour ceux qui veulent se lever, c'est maintenant. Et ça c'est pour tout le monde. Aujourd'hui, si tu étais déjà engagé auprès du Seigneur, tu peux faire un réengagement auprès de Dieu. Et de lui dire, aujourd'hui j'ai abandonné tes principes, aujourd'hui j'ai abandonné tes préceptes, mais aujourd'hui je veux te donner ma vie, je veux te donner mon cœur et je veux te servir pleinement. Je ne veux plus vivre pour moi-même, mais je veux vivre uniquement et simplement pour toi, parce que de moi-même, rien de bon ne ressort. Seigneur Jésus, je te bénis, je te rends grâce pour ton peuple. Je te bénis, Seigneur, je te rends grâce, Seigneur, pour cette nation de France. Je prie pour chacun de nous maintenant, par le nom tout-puissant de Jésus, qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Je prie pour chacun de nous, Seigneur, que nous recherchions les choses de l'éternité et non les choses de ce monde. Je prie pour chacun de nous maintenant que nous ayons conscience de l'appel que tu nous as donné, Seigneur. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Et ensemble, d'un commun accord, nous allons dire ensemble cette prière en signe de réengagement auprès du Seigneur. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour le mal que j'ai fait, que j'ai commis. Je t'ai déshonoré. Aujourd'hui, je te donne ma vie. Aujourd'hui, je te donne mon cœur. Aujourd'hui, je veux être ton disciple. Et je veux te servir. Remplis-moi de ta volonté. Remplis-moi de ta compassion. Et envoie-moi au monde. Au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Des applaudissements pour le Seigneur, s'il vous plaît.